Système D pour les parents et les élèves de l'enseignement catholique. Ils doivent faire face à la fermeture des cantines décidée par la direction de l'enseignement catholique pour au moins 15 jours. Fermeture qui prend en otage les familles et qui est destinée à mettre la pression sur les institutions, nous a dit Gilles Brial. Le deuxième vice-président de la province sud était ce matin notre invité. Vaincre l'addiction au tabac et au vapotage, l'agence sanitaire et sociale lance des actions de proximité à l'occasion du mois sans tabac. En métropole, aucune majorité ne se dégage pour l'examen du budget. Sébastien Lecornu tente une nouvelle méthode. Il reste 40 jours pour voter le budget en première lecture. À Moissac, un homme très énervé entre hurlant dans une église et menace une religieuse. Le maire de la ville est très en colère car le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre l'agresseur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal à la fin duquel vous retrouverez comme chaque lundi le grand magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
On fera le point sur un certain nombre de résultats du week-end bien sûr et sur la scène nationale et internationale on parlera de foot avec le Ligue 1. Pas de changement en tête du classement sauf sur la troisième marche du podium.
La course serrée en haut comme en bas du tableau. Lens qui garde la cadence avec un succès à Lorient 3-0 pour prendre effectivement la troisième place dans le sillage du Pétois Marseille et en profitant du faux pas de Monaco qui chute du podium et de la contre-performance des Lyonnais, tenus en échec aujourd'hui à Brest 0-0, qui rate l'occasion de rejoindre le trio de tête. L'OL reste à la sixième place avant une semaine de joutes européennes.
Le football, c'est aussi le grand jour pour la sélection calédonienne des moins de 17 ans.
Dans la cour des grands, le mondial des moins de 17 ans. La nuit prochaine, la sélection débutera cette Coupe du Monde au Qatar face à un adversaire relevé, le Portugal comme premier adversaire. L'équipe espère montrer un beau visage. Coup d'envoi du match à 2h15 la nuit prochaine pour nous.
Et puis nous évoquerons aussi en Calédonie un événement prévu le 15 novembre. C'est la chaîne Méga Rando et c'est du VTT.
Une épreuve, effectivement, de vététistes affectionnés des pratiquants. Événement qui se déroulera sur le domaine de Deva à Bouraille. Plusieurs parcours proposés. Il s'agira de la 21e édition de cette épreuve qui n'avait pas pu avoir lieu en 2024. Nous présenterons en détail ce rendez-vous avec Éric Bertin, son organisateur.
Le magazine des sports à retrouver dès la fin de ce journal. Les parents d'élèves et dont les enfants sont scolarisés dans les établissements de l'enseignement catholique s'organisent comme ils peuvent. Pas de cantine, pas d'internat pendant au moins 15 jours. Annonce faite vendredi par le directeur de l'ADEC pour faire face à un déficit de trésorerie dû au fait que certaines collectivités n'ont pas payé leur quote-part. Nous allons y revenir. En attendant, il faut donc trouver des moyens de substitution, ce qui n'est pas toujours très simple. Léana Colombo, vous vous trouvez devant le lycée Anova de Païta et les parents s'organisent et avec les enfants comme ils peuvent.
Et oui, effectivement, Jean-François, un mot d'ordre ici, le système D. Depuis 10h30, de nombreux élèves des collèges et lycées alentours vont à pied jusqu'au centre commercial situé en face des établissements pour s'acheter à manger. Ils ressortent avec des sandwichs, des baguettes de pain, de quoi se restaurer ce midi. Le premier problème, c'est donc que ces élèves sont privés de cantine et doivent se débrouiller par eux-mêmes pour manger. Les parents ont payé ce service et certains n'ont pas les moyens de s'acheter à manger à l'extérieur. Seconde problématique, les élèves doivent rester en dehors des établissements et ne peuvent pas manger dans l'enceinte, ce qui pose des problèmes de sécurité. Mais une dernière question se pose, comment faire si les conditions météo se gâtent? Depuis ce matin, le tonnerre gronde du côté de Païta et la pluie s'est invitée à la fête. De nombreux enfants se sont abrités comme moi sous un abri de bus, mais difficile de faire tenir tout le monde dans un si petit espace. La solution de repli consiste à aller manger directement dans le centre commercial, ce qui signifie des dépenses supplémentaires et une situation loin d'être idéale. De quoi inquiéter plus d'un parent. Certaines APE ont d'ailleurs tenté de s'organiser pour que les enfants puissent tout de même manger, mais difficile de mettre en œuvre tout ça dans un temps réduit. Des familles viennent quand même livrer un repas à leurs enfants, mais espèrent que la situation s'arrangera très rapidement. En bref, la fermeture des cantines, c'est un problème bien vaste et qui touche tout le monde, parents, personnels et enfants, et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Depuis le lycée Anova à Païta, Léana Colombo, RRB.
La fermeture des cantines et des internats dans les établissements scolaires de l'ADEC a été annoncée vendredi dernier, alors que le Congrès avait voté la veille une contribution de 400 millions aux enseignements privés, dont 300 millions à l'enseignement catholique. Dans ces conditions, l'ADEC aurait dû laisser cantines et internats ouverts, nous a dit Gilles Brial. Le deuxième vice-président de la province sud était ce matin notre invité à 7h30.
Ah mais oui, complètement.
Mais le directeur de l'enseignement catholique dit cet argent, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être versé, je ne sais même pas quand la convention va être signée, donc probablement pas avant la fin du mois, donc je ne pourrai pas payer les gens à la fin du mois.
Mais il n'est pas en rupture de trésorerie aujourd'hui. Cette semaine, la DEC peut payer à la fois ses salaires, ses fournisseurs. Donc il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, les internats s'arrêtent. Ce qu'on a fait au Congrès, parce que c'est important de le rappeler, le directeur est venu sur votre antenne, il a dit deux choses qui m'ont étonné. La première, c'est qu'il était colère. Et la deuxième, c'est qu'il fallait qu'il explique, qu'il fasse de la politique. Les élus du Congrès ont décidé de prendre sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, encore une fois, en 2024 et 2025, grâce à Isabelle Chambrou, a payé sa part. Et les élus de la Nouvelle-Calédonie ont décidé d'enlever 400 millions au chômage partiel. C'est-à-dire que les entreprises vont avoir moins de recettes pour payer des chômages partiels pour pouvoir financer les enseignements privés. Donc, je vous le dis, il n'y a aucune raison aujourd'hui que les collégiens, que les lycéens, que les enfants du primaire n'aient pas leur repas à la cantine.
La province sud regrette que la direction de l'enseignement catholique engage le bras de fer avec les institutions, notamment les institutions qui ont assuré leur part du financement tel qu'il a été adopté au Congrès via la délibération 360 adoptée en octobre 2023. Il faut donc régler le court terme, c'est-à-dire la fermeture des cantines, mais aussi le long terme pour revoir la question du financement des enseignements privés, nous a dit Gilles Brial.
La première chose immédiate qui sera faite aujourd'hui, c'est que nous, la province sud, étant donné qu'on a payé, les cantines qui sont fermées aujourd'hui ont déjà été payées. Donc on va faire passer des huissiers pour constater cette fermeture et on va demander à la DEC de nous rembourser tous les établissements financés par la province qui sont fermés, puisque ça a été payé, on va demander le remboursement. Et après, il faut travailler avec l'ensemble des enseignements privés, puisqu'on parle beaucoup de la DEC, comment on sort de cette crise. Comment on met en place cet audit, débloquer les premiers 150 millions pour être sûr qu'il n'y a pas une rupture, encore une fois, du financement, et puis comment on travaille sur l'année prochaine à une révision de la 360 révisée pour voir est-ce qu'il y a une erreur de calcul ? Nous, on ne croit pas. Est-ce qu'il y a une erreur de calcul
sur les taux,
qui a été faite sur les taux ? Dans ce cas-là, on mesure et on réajuste s'il y a un besoin de réajuster. Mais il faut également, après, que les collectivités qui n'ont pas payé leur part payent leur part, parce que là-dessus, le directeur de la DEC a raison de s'émouvoir de ça. L'erreur qu'il fait, c'est qu'il tape sur ceux qui payent, c'est-à-dire le gouvernement et la province sud. Donc au bout d'un moment, ça commence à nous gonfler.
La province sud, tout comme le gouvernement, demande un audit sur le fonctionnement et la gestion de la DEC, ce que refuse le directeur de l'enseignement catholique, au motif qu'il y a déjà eu de nombreux rapports dans les années précédentes. Gilles Brial reconnaît que la DEC a fait des efforts budgétaires, mais qu'il reste des points qui posent question.
Oui, la DEC a un déficit structurel, mais en parallèle, elle fait des choix. Moi, c'est l'exemple que j'ai pris au Congrès. Elle fait les choix d'inscrire dans son budget 370 millions pour son personnel, pour avoir des congés administratifs, c'est-à-dire qu'on permet aux personnes de partir, en plus de leur congé nomo, de partir en métropole, en l'occurrence, pendant plusieurs mois, en étant payé. Mais une entreprise normale, privée, quand elle gagne de l'argent à la fin de l'année, elle verse des primes à ses employés, parce qu'elle veut récompenser leur travail. Et quand elle perd de l'argent, elle n'en verse pas, mais ce n'est pas pour les punir, c'est parce qu'elle n'a pas la capacité de faire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne considère pas que le travail qui est fait par le personnel est le bon. Et là, la DEC dit, elle continue, alors qu'elle l'avait suspendu il y a quelques années de ça, elle continue à mettre en place ses congés administratifs qui coûtent 370 millions à un moment où il n'y a plus d'argent. Et donc, ils considèrent que les collectivités vont venir boucher les trous.
Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud, en charge notamment de l'enseignement, qui était ce matin notre invité. Interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Cette journée de lundi aurait dû s'ouvrir avec la visite de la ministre des Outre-mer, mais comme vous le savez, Naïma Moutchou a décalé de quelques jours son séjour en Nouvelle-Calédonie. C'est une demande du Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui souhaite que la ministre contribue à la finalisation d'une trajectoire budgétaire exigeante et équilibrée pour les Outre-mer, en plein débat sur le budget de la France. Un report qui est le point de départ de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve tout de suite.
La ministre des Outre-mer nous a posé un lapin. On ne s'y attendait pas. Tout était prêt pourtant pour l'accueillir dans les règles de l'art, avec un programme immuable qui enchaînait dépôt de gerbes, visite au Sénat coutumier, entretien protocolaire et déplacement dans les trois provinces. Un programme ordinaire pour une période qui ne l'est pas. Et finalement, Naïma Moutchou a dû y renoncer quelques heures avant qu'elle ne prenne l'avion. Le Premier ministre Sébastien Lecornu lui a intimé de défaire ses valises et de rester à Paris, en raison des échéances budgétaires majeures auxquelles fait face le pays. Le ministère des Outre-mer précise que ce décalage lui permettra de contribuer aux côtés des parlementaires à la finalisation d'une trajectoire budgétaire exigeante et équilibrée pour les Outre-mer. C'est notamment la question du dispositif de la défiscalisation Outre-mer qui est sur la sellette et dans le contexte tendu de l'élaboration du budget, ce n'était pas le moment que la ministre soit absente de Paris. Mais ce n'est que partie remise. Le Premier ministre a demandé à Naïma Moutchou de reporter de seulement quelques jours son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Mais on peut penser que ces quelques jours ne seront pas de trop pour approfondir le dossier calédonien dont elle a hérité il y a seulement quelques semaines. Et assurément, ce n'est pas un cadeau, tant le dossier calédonien se complexifie un peu plus chaque jour. Alors certes, le report des élections provinciales au plus tard au 28 juin 2026 est considéré comme une étape essentielle. Mais elle a été franchie de haute lutte avec un passage en commission mixte paritaire rendu indispensable pour contourner l'obstruction de LFI. Et au terme de ce parcours chaotique, il s'en est fallu d'une quinzaine de voix pour que la loi organique ne soit pas adoptée. Mais entre-temps, son intitulé a été modifié. Le report des provinciales est désormais justifié pour permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On ne fait plus allusion à Bougival. Et forcément, cela interpelle. Même si on comprend que cet accord consensuel, qui doit encore être recherché, c'est forcément un Bougival complété, amélioré, parachevé. Mais on comprend aussi que c'est un gage donné aux socialistes pour voter la loi et au nouveau FLNKS pour le ramener à la table des discussions. Sauf que sur ce point, c'est loin d'être gagné. Les indépendantistes radicaux n'en démordent pas, ils disent non à Bougival et ils veulent repartir d'une feuille blanche ou d'une feuille préécrite par leurs soins et sur laquelle figure une indépendance avant la présidentielle de 2027. Ils savent comme tout le monde que c'est impossible, mais ils vont continuer leur gesticulation et leur manifestation de vendredi se voulait à l'évidence une pression avant l'arrivée de la ministre des Outre-mer. Une mobilisation qui a tourné à la démonstration de faiblesse, puisque moins de 200 personnes y ont participé. Mais on ne sent pas le nouveau FLNKS prêt à se rasseoir autour d'une table de discussion. Peut-être était-il trop tôt pour infliger à Naïma Moutchou les caprices et les oukases des indépendantistes radicaux, et cela justifiait sans doute un report de sa venue. D'autant plus que la ministre n'a pas encore de réponse non plus en ce qui concerne les aides économiques et sociales promises par l'État, et que même les signataires de Bougival commencent à s'impatienter. Là aussi, il est bon de donner du temps au temps. Jeudi devant le Sénat, Naïma Moutchou défendait un texte qui reporte pour apaiser. C'est peut-être aussi le sens du report de son déplacement en Nouvelle-Calédonie.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez comme chaque semaine sur notre site rrb.nc. Elle est aussi à réécouter cet après-midi, c'est juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Comprenez-vous que la ministre des Outre-mer ait reporté son déplacement en Nouvelle-Calédonie ? Si vous le comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. 11h43, une première pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Pourquoi tu souris bêtement ?
Bah, on est le 4.
Oh, tu y as pensé, mon amour.
Comment tu veux que j'oublie le Happy Day ? C'est tous les 4 du mois au Complexe 4. Il y a moins 10% sur une sélection d'articles chez Célocal, la Maison du Pain et Cégel.
Happy Day ? Et notre anniversaire de mariage ?
Oui, bon, oui, non, mais ça va, je peux pas penser à tout non plus.
Le Happy Day, c'est tous les 4 du mois au Complexe 4. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin. Plus d'infos sur Facebook 4. Faites vos courses autrement.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le parquet confirme l'ouverture d'une information judiciaire concernant la mort de Lionel Païta d'une balle dans la tête lors des émeutes. Il s'agit des suites du travail de manifestation de la vérité, déclare le procureur de la République. La justice doit déterminer les circonstances exactes de l'usage de l'arme par des gendarmes hors service dans le col de la Pirogue. C'était en juin 2024, alors que leur voiture avait été percutée par Lionel Païta et l'un de ses cousins. Évoquons maintenant la crise à la CCI. Elle n'est pas terminée, elle se poursuit même après la mise en examen de son président dans une enquête pour abus de biens sociaux, Nicolas Legrand.
Les 11 élus du groupe Alliance pour la Relance annoncent qu'ils se mettent en retrait du fonctionnement public de la Chambre de commerce et d'industrie. Tant que David Guyenne restera en fonction, il refuse d'être assimilé à une présidence dont l'image porte atteinte à la crédibilité de la CCI et du monde économique calédonien. Les élus du groupe Alliance pour la Relance rappellent qu'ils avaient demandé que le temps de l'enquête, David Guyenne se mette en retrait de la présidence et de toute représentation publique. Puisqu'il ne l'a pas fait, ce sont donc les élus d'Alliance pour la Relance qui vont se retirer en n'assistant plus le temps de l'enquête aux assemblées générales et aux réunions publiques présidées par David Guyenne. Ils continueront en revanche à participer activement aux commissions de travail pour défendre les dossiers économiques et les intérêts des entreprises calédoniennes. Fin de citation.
Un mois pour arrêter le tabac, c'est le défi que vont relever de nombreux fumeurs en novembre. Cette initiative nationale est relayée sur le territoire par l'Agence sanitaire et sociale. Tout au long de ce mois, des actions de proximité sont mises en place, notamment dans les CMS des communes. C'était le cas ce matin à Païta, où de nombreuses personnes étaient intéressées par ce défi, que cela soit pour elles-mêmes ou pour leurs proches.
Pour mes proches, j'aimerais les aider en fait à arrêter le tabac pour leur santé et puis pour l'entourage. J'ai jamais été intéressée par le tabac, juste que ça me dérange quand ils fument.
Oui, moi je fume beaucoup même. La cigarette et la puff, je suis intéressée. On va déjà tester le 1 mois sans tabac pour voir si ça va le faire, mais je l'ai déjà fait, donc j'ai déjà une expérience de comment ça se passe et c'est très bien même 1 mois sans tabac. Du coup, j'ai repris à cause de mon entourage et des habitudes.
En plus, toi, t'aimes bien voyager, donc il y a des contraintes en plus de fumer.
À Singapour, j'y suis allée pour 3 semaines et en sortant de l'aéroport, en fait, il y avait des personnes qui avaient des puffs et qui étaient totalement interdites, donc du coup, ils ramassaient des amendes, en fait, parce que c'est totalement illégal là-bas, à Singapour, de fumer la puff. C'est aussi un avantage d'arrêter, quoi, pour passer de bonnes vacances.
L'addiction au tabac touche en grande partie les jeunes. C'est donc une cible privilégiée par les campagnes de prévention mises en place par l'Agence sanitaire et sociale. Depuis quelques années, le problème du vapotage s'est rajouté. C'est pour cela que cette année, pour la première fois, un deuxième défi est proposé, celui de stopper pendant 1 mois la cigarette électronique. Anne Barraud est intervenante en prévention à l'Agence sanitaire et sociale.
Ça s'adresse aux jeunes qui n'ont jamais fumé le tabac, mais qui ont commencé directement par la cigarette électronique. On sait aujourd'hui qu'un jeune sur 4 fume la cigarette électronique. Et que 8 jeunes sur 10 sont déjà testés. Il faut de la volonté, donc le but justement c'est d'essayer pendant 1 mois, parce qu'on sait qu'arrêter 1 mois, ça multiplie par 5 la chance d'arrêter par la suite. Le fait, c'est de lancer des défis pour pouvoir motiver les jeunes. C'est pour ça qu'on propose des vidéos sur TikTok, par exemple. Et vraiment, le but, c'est un défi collectif pour se motiver ensemble, se donner des pistes, essayer de ne pas être seul face à cet arrêt.
Et parmi les actions, l'Agence sanitaire et sociale propose dans les CMS et sur son site internet un kit No Tabac. Il permet notamment de prendre conscience de sa consommation et des dépenses engendrées par cette addiction. L'actualité dans la région avec ce drame en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 22 personnes au moins sont mortes dans un glissement de terrain. Il a eu lieu dans la province d'Inga. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le commandant de police par intérim de la province d'Inga, Kelly Sambe, a déclaré que le glissement de terrain qui a eu lieu aux environs de 2 heures du matin a probablement été provoqué par les fortes pluies qui venaient de s'abattre sur la région. À l'en croire, une coulée de boue a enseveli 3 cases d'une même tribu de la vallée de la Minang. Les corps sans vie de 22 personnes ont déjà été retrouvés, a déclaré le commandant de police. Il a précisé que 3 autres villageois ont été hospitalisés dans un état grave à Wabag, capitale de la province, et que le bilan final de la catastrophe sera d'environ 30 morts. Il a ajouté qu'une équipe de secours du gouvernement provincial a été dépêchée sur place pour participer aux recherches et fournir des produits de première nécessité aux survivants. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h49, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h13, Infomag, Jean-François Bodin.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est l'événement auto de l'année. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc de véhicules d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Ambiance festive, animation, jeux, surprises pour toute la famille et 700 000 francs de carburant à gagner. Ouvert de 7h30 à 18h, entrée gratuite. Le salon du village automobile, c'est du 6 au 8 novembre au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 14 novembre. Valeur totale du lot 700 000 francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole. On retrouve Jean-François Baudin.
Et une semaine politique à haut risque qui s'annonce est probablement sous tension à l'Assemblée nationale. Les députés ont 40 jours encore pour voter en première lecture le budget 2026 de la France et les débats s'annoncent donc tendus. Malgré les ouvertures du gouvernement, le Parti socialiste ne digère pas le rejet de la taxe Zoukman. Il n'existe donc aucune majorité sur laquelle s'appuyer et le Premier ministre Sébastien Lecornu propose donc une nouvelle méthode.
Les ministres vont réunir les parlementaires de tous les groupes pour essayer de trouver déjà des grands points de principe et d'agrégat sur lesquels on peut avancer. En commençant par les dépenses, comme ça au moins on aura un cadre global, puis les recettes, et ensuite je recevrai l'ensemble des présidents de groupe pour essayer de trouver une solution.
Résultat des discussions depuis plusieurs semaines, le bloc de gauche est fortement fissuré. La stratégie du Parti socialiste énerve le patron de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
J'ai compris comme tout le monde, ils ont changé d'alliance. Ils étaient alliés à gauche avec nous, avec les communistes et avec les Verts. Et maintenant, ils veulent s'allier avec M. Attal et avec ce qu'ils appellent, eux, le centre-gauche. Bon, je vois pas ce qu'il y a de gauche dans M. Attal, mais voilà, c'est ça leur calcul. Il y a de leur part aussi un amateurisme. Et l'amateurisme, le manque de professionnalisme, ça signifie qu'en réalité, ils s'en foutent de ce qu'ils votent. Ce qui compte pour eux, c'est juste qu'ils ont montré qu'ils pouvaient s'entendre avec M. Attal. Voilà tout.
Et dans les conditions actuelles, aucun candidat socialiste aux élections municipales ne sera soutenu par les insoumis, a ajouté Jean-Luc Mélenchon. L'actualité en métropole, c'est aussi la colère du maire RN de Moissac. Il y a une semaine, un homme très énervé s'est introduit dans l'église de l'abbaye Saint-Pierre. Il a menacé une religieuse, il a poussé des cris avant de sortir en tapant violemment dans la porte de l'édifice. Ce qui provoque la colère du maire Romain Lopez, c'est que le procureur de la République a décidé de ne pas poursuivre l'agresseur.
On a aujourd'hui des fous qui errent dans la rue, des tarés qui rentrent dans nos églises, qui menacent nos bonnes sœurs. Cet individu, il a menacé des bonnes sœurs physiquement, quoi. Et le procureur de la République, il classe ça sans suite. Non, le gars, il aura rien du tout. Aucune poursuite. Tranquille. Qu'est-ce qu'il fera la prochaine fois? Il va s'en prendre physiquement à elle, il va les égorger. La responsabilité, elle sera dans les mains de l'État. Ce sera le procureur de la République et l'État qui portera la responsabilité s'il y a un malheur. On en a ras-le-bol de cette impuissance de l'État.
Le maire de Moissac, Romain Lopez. En Grande-Bretagne, un suspect est toujours en garde à vue après l'agression à l'arme blanche dans un train de la banlieue de Londres. 10 personnes ont été blessées. Les faits se sont passés vendredi soir. 2 suspects avaient été arrêtés, l'un d'entre eux relâché, mais le second est considéré par les enquêteurs comme le principal suspect. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Il s'agit d'un homme de 32 ans, toujours donc en garde à vue, et qui, selon la police, serait l'auteur des coups de couteau ayant blessé au moins 10 personnes hier. Il était aux alentours de 18h30 dans ce train qui relie la ville de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre, à Londres, lorsque le suspect est passé à l'acte. Il poignarde alors plusieurs personnes avec un grand couteau, semant la panique dans le wagon. Les passagers tentent de fuir, de lui échapper, comme le raconte cette femme, témoin interrogée par Sky News.
Les gens ont commencé à crier, il a un couteau, donc on s'est mis à courir. Il y avait des gens couverts de sang partout, c'était horrible. Nous avons vraiment cru que nous n'allions pas nous en sortir parce qu'on voulait que le train s'arrête, mais il ne s'arrêtait pas.
Le train, heureusement, finit par s'arrêter quelques minutes plus tard après l'attaque en gare d'Uddington, près de Cambridge. L'homme porteur du couteau est alors stoppé par la police à l'aide d'un pistolet électrique. Pour l'heure, les autorités britanniques écartent toujours la piste terroriste. 2 victimes sont toujours en situation de pronostic vital engagé.